Bonjour à vous tous. À l'époque actuelle de l'Église, nous avons souvent observé la fête et les fêtes de Dieu d'une façon paisible, dans une atmosphère prospère. Parfois, nous habitions simplement des petits motels à la campagne. Certains ont même fait du camping, comme à Big Sandy, à une certaine époque, au début de l'Église, de l'ère moderne. Parfois, certains ont habité des condominiums très luxueux, dans les montagnes ou le long de la mer, dans de très beaux sites de fête. Mais que ce soit dans des sites comme ça ou autrement, nous avons goûté l'excitation et l'enthousiasme de la fraternisation et des sermons spéciaux que nous avons reçus de la part des serviteurs de Dieu. Même lorsqu'on n'est pas capable d'assister à la fête à cause de nos finances, les frères et sœurs nous encouragent de façon très spéciale. Je me rappelle une occasion. Moi, dans mon cas, j'ai assisté à presque toutes les fêtes depuis que j'ai été baptisé dans l'Église de Dieu. Sauf une fois. Mon épouse, à ce moment-là, était enceinte et sur le point d'accoucher. On habitait au Montana à ce moment-là et je devais me rendre à Squaw Valley, en Californie, avec ma famille. Et je devais y donner ma première sermonnette. Je venais d'être ordonné comme ancien local. À ce moment-là, mon épouse a commencé à avoir certaines contractions. Alors, je ne voulais pas prendre la chance de voyager sur une aussi longue distance à partir du Montana à aller à Squaw Valley en Californie. Alors, ça a été la seule fois où je n'ai pas pu aller à la fête des tabernacles. Mais on a été tellement encouragés parce que certains frères, le sachant, ont passé par notre domicile et nous ont encouragés, ont venu nous dire bonjour. Bien sûr, c'était triste de les voir quitter pour aller au site de fête alors qu'ils se dirigeaient vers là. Mais nous avons été tellement encouragés par l'amour que les frères nous ont manifesté parce qu'on devait rester chez nous pour la fête. Aujourd'hui, nous sommes capables, grâce à la technologie, comme c'est le cas aujourd'hui, d'entendre les sermons de Dieu par vidéo comme nous avons maintenant. Vous savez, dans les années qu'on vient de passer, nous avons observé la fête des tabernacles dans des temps faciles, sauf dans certaines régions du monde, bien sûr. Mais si on remonte dans l'histoire, il y a eu des circonstances où ça a été plus difficile. Quand Israël, à l'époque de Moïse, a observé la Pâque, ils étaient esclaves en Égypte. Dans les jours précédant une Pâque, au temps de la reine Esther, Aman a réclamé du roi de Perse qu'il signe un édit pour détruire tous les Juifs dans le pays. Jésus-Christ fut crucifié le jour de la Pâque et ses disciples furent alors dispersés. Par après, en l'an 70, alors que la foule s'assemblait à Jérusalem pour la Pâque, c'est à ce moment que les armées romaines encerclèrent Jérusalem et le Temple, emprisonnant les gens à l'intérieur et procédant à sa destruction. La dernière résistance des Juifs réfugiés à Masada fut brisée au cours des jours des pains sans levain. Le jour de la Pâque, en 1943, 35 000 Juifs du ghetto de Varsovie se soulevèrent contre les nazis. C'étaient ceux qui restaient parmi les 450 000 Juifs qui y habitaient juste auparavant. En 1973, les armées de l'Égypte et de la Syrie, aidées par les forces de 9 autres nations arabes et non arabes, ont attaqué Israël le jour des expiations, le Yom Kippour. Comment observerions-nous les fêtes de Dieu en des temps aussi troublés, agités et difficiles? Le titre de mon sermon aujourd'hui est celui-ci, « Célébrer les fêtes de Dieu en des temps heureux et en des temps difficiles ». Nous allons voir à travers l'histoire quelques expériences qu'ont vécues les enfants de Dieu et qui nous arrivent parfois. Nous avons observé souvent la fête dans des temps faciles et sécuritaires. Mais il y a eu des moments où la connaissance a été perdue, où il y a eu des apostasies. Et à ce moment-là, ceux qui avaient perdu leur chemin, mais qui le retrouvaient, qui retrouvaient l'Église, pour ainsi dire, étaient joyeux. Allez à 2 Chroniques, chapitre 30. 2 Chroniques, chapitre 30, on voit une situation comme celle-là. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce qui avait été abandonné pendant quelques années. Les rois et ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait le faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Alors, ça a été des moments enthousiasmants de retrouver la vraie connaissance et de retourner vers Dieu. Verset 21 du même chapitre. Ainsi, les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Et ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce, louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Alors, c'était une occasion tout à fait spéciale, une occasion mémorable pour le peuple de Dieu à ce moment-là. Une autre occasion, on trouve dans Néhémie, chapitre 8, une autre occasion semblable. C'est une joie, une grande bénédiction de pouvoir observer toutes les fêtes de Dieu, la fête des tabernacles comme les autres fêtes également. Alors, on voit dans l'histoire qui s'est passée à certains moments donnés, Néhémie, chapitre 8, et nous allons commencer au verset 1. Néhémie, chapitre 8, et le verset 1. Alors, tout le peuple s'assembla, comme un seul homme, sur la place qui est devant la porte des eaux. Alors, c'était rempli, la foule était là, et ils avaient un but précis. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. C'était une fête d'automne, c'était la fête des trompettes. Et on voit, verset 3, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils ont eu une assemblée et le matin et l'après-midi. On le voit ici. Alors, Esdras lut la loi devant les hommes et les femmes, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ils voulaient entendre la loi. Ils voulaient entendre la bonne parole de Dieu. Ils étaient disposés à être fortifiés par Dieu, par sa parole, pour continuer. Verset 5, il est écrit ici, après avoir décrit que Esdras se tenait sur une plateforme, comme le font les ministres lorsque nous prêchons. Verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Alors, c'est important de réaliser que nous lisons à partir de la parole de Dieu, ce ne sont pas nos paroles à nous en tant qu'êtres humains, ce sont les paroles de Dieu que nous devons donner au peuple. Esdras ouvrit le livre et lut à tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen », autrement dit qu'il en soit ainsi. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. D'autres assistaient Esdras pour expliquer la loi. Verset 8. Ces hommes-là lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. On entend M. Meredith et d'autres évangélistes durant la fête et les ministres de Dieu lire les Écritures et expliquer le sens profond de ces passages-là. C'est ce qu'il faisait à ce moment-là, comme on voit ici. Verset 9 maintenant. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils redécouvraient la beauté de la loi. » Il leur dit, ce n'est pas un temps pour pleurer, c'est un temps de grande réjouissance. Et c'est une expérience merveilleuse que vous vivez de célébrer les fêtes de Dieu et leur dire, allez, mangez des viandes grasses. Donc, célébrez en goûtant de bonnes choses et buvez ce qui est doux, goûter des choses excellentes et envoyer des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et ça nous encourage. Ça nous encourage à continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous savons que le Christ vit en nous et nous comprenons de plus en plus ce que Dieu accomplit. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes ici à la fête ou pour lesquelles nous observons la fête chez nous en ce moment, si nous ne pouvons pas nous y rendre, c'est parce que nous attendons le changement du monde dans l'avenir au retour de Christ. Dieu est avec nous si nous observons la fête. Et ce n'est pas par crainte, ce n'est pas par menace que nous le faisons, c'est par joie, c'est par la joie de l'Éternel. C'est à cause de son amour, à cause de sa joie, à cause de sa paix. Et il nous la donne, il nous la communique lorsqu'on obéit. Verset 11, « Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Formidable! Alors, dans des temps semblables, ça a été une expérience merveilleuse. Les gens sont revenus à Dieu, des familles entières ensemble, pour apprendre les voies de Dieu. Et c'était enthousiasmant de le vivre, comme c'est pour nous aujourd'hui. Mais il y a une mise en garde que Dieu nous fait et dont il faut nous rappeler. Dieu nous donne plein de bénédictions pour ces fêtes. Nous ne devons pas aller à l'excès lorsque nous vivons des fêtes de Dieu dans sa prospérité. Allons à Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5. Certains racontent leur expérience, leur première expérience, lorsqu'ils ont assisté ou célébré la fête des tabernacles pour la première fois. Et certains ont exagéré, ont mangé trop ou ont bu trop. Ce n'est pas ce que Dieu dit de faire. Ésaïe 5, verset 11. Dieu dit, « Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes. » Voyez-vous, durant la fête, on se lève tôt le matin pour prier Dieu, pour faire nos études bibliques, pour être avec la famille, pour partager des bons moments, pour se préparer pour la journée. Mais non pas pour s'intoxiquer avec l'alcool. Dieu décrit ici ceux qui exagèrent et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth et les tambourins, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Voilà la clé. On peut goûter les bonnes choses avec modération, que ce soit l'alcool, que ce soit les bons mets. On peut goûter des mets nouveaux, mais toujours dans la perspective d'obéir à Dieu, de la raison pour laquelle nous sommes là à la fête, pour apprendre les voies de Dieu et pour glorifier notre Dieu. Peut-être qu'on ne peut pas être à la fête à cause des circonstances financières ou de maladies, mais nous comprenons quand même le plan de Dieu et il y a un but pour ceux qui sont appelés. Dieu veut appeler plusieurs fils à la gloire au retour de Christ lorsque le millénium commencera et que Dieu va répandre ses bénédictions. Alors, dans les temps de paix et de sécurité, il faut garder en tête le but de Dieu et le but pour lequel nous célébrons ces fêtes. Il y a aussi parfois des moments où nous connaissons la pauvreté ou la détresse sur le plan économique. Il y a des temps où les gens apprennent, viennent d'apprendre que la fête existe. Je me rappelle d'un couple, dès le début de mon ministère, ils venaient d'apprendre concernant la fête des tabernacles, et bien sûr, ils n'avaient pas pu s'y préparer. Ils ne connaissaient pas l'Église à ce moment-là, et ils ont célébré la fête par eux-mêmes, dans un camping. Et comme ils ne connaissaient pas vraiment le calendrier de Dieu, ils l'ont célébré à un mois de différence. Mais ils ont appris par la suite. Parfois, il nous arrive de passer des situations financières difficiles. Vous savez, actuellement, aux États-Unis, on passe une crise financière jamais vue depuis une centaine d'années. Certains ont perdu leurs emplois, certains ont de la difficulté actuellement, et c'est la même chose dans d'autres pays à travers du monde. Qu'est-ce qui serait arrivé, par exemple, j'émets l'hypothèse, si le système bancaire se serait effondré dans les nations où nous sommes, si nous avions fait face à un grand chaos, comment aurions-nous observé la fête des tabernacles? Allons à 1 Timothée chapitre 6. Il faudrait l'observer de toute façon, là où nous serions. Nous savons par la foi que nous l'observions d'une façon ou de l'autre. Dans des périodes de difficultés ou de stress financier, nous devons continuer à observer les fêtes avec l'attitude que Dieu veut que nous ayons. 1 Timothée 6 et le verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il nous faut comprendre que ce sont les choses spirituelles qui ont préséance, qui prédominent, qui doivent prédominer. Paul écrit ceci à Timothée. Il faut avoir l'approche selon Dieu. C'est en effet une grande source de gain que la piété, l'obéissance à Dieu, avec contentement, avec joie, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il n'y a aucune exception à ça. Vous savez, certaines familles sont peut-être plus dans l'abondance, mais écoutez, quand on vient au monde, on n'a rien. On n'arrive pas au monde avec un tuxedo ou avec une superbe robe ou avec un accoutrement physique particulier. Non, nous naissons tous de la même façon, nus et habituellement en pleurant. Même lorsque nous décédons, nous n'apportons rien avec nous. C'est la réalité des choses. Les Égyptiens pensaient pouvoir apporter beaucoup de choses dans la mort avec eux. C'est pour ça qu'on trouve dans la tombe des pharaons plein de choses. De la nourriture, des armes et même les corps de leurs serviteurs, mais ils n'ont rien apporté. Nous sommes ce que nous sommes en naissant et en mourant. Nous sommes rien. Alors Paul dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, verset 7, il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous savez, certaines personnes arrivent à la fête pour la première fois n'ayant pas eu l'occasion de ramasser de l'argent suffisamment, et ils célèbrent la fête de façon très frugale, mais ils sont en accord avec les enseignements de Dieu, et ils en sont heureux, et ils ont la joie de Dieu, ils sont en paix. Regardez le verset 9. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Parfois, si nous ne faisons pas attention, si nous n'avons pas le caractère de Dieu suffisamment, si on ne revêt pas Dieu suffisamment et que notre cœur n'est pas dans l'œuvre de Dieu suffisamment, on peut avoir beaucoup d'argent et beaucoup de ressources, mais si nous ne l'utilisons pas comme il faut, même pour célébrer la fête, ça ne sert à rien et ça nous amène ailleurs. Il dit, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, la fête des tabernacles n'est pas une fête de tourments ou d'angoisse. On doit célébrer la fête de la façon divine et avec le niveau de bénédiction que Dieu nous a donné. Verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. » C'est pour ça que Paul insiste ici, je remonte au verset 12, il dit à Timothée, et ça s'applique à nous, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » C'est ça l'essentiel, c'est ça notre but. « Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Voyez-vous, quelle que soit notre situation, même si on doit rester à la maison pour observer la fête, il faut la garder dans la perspective de Dieu. Et Dieu va vous encourager. Nous avons un avenir extraordinaire en tant que peuple de Dieu. C'est merveilleux. Dieu va répandre sur nous les bénédictions pour nous donner l'encouragement que nous avons besoin pour continuer. Et après son retour, il va bénir les nations. C'est pour ça qu'il dit, et je relis 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, selon Dieu, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » Voilà le Christ qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Paul continue en disant, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de donner de la générosité. » Alors, nous encourageons ceux qui observent la fête, soit à la fête ou soit à la maison, d'agir de la sorte, de penser aux autres, de s'examiner. Examinons-nous. Est-ce que nous avons l'attitude de donner, de se rappeler que si nous avons la bénédiction d'être à la fête, par exemple, il faut se rappeler ceux qui n'ont pas pu se rendre à la fête et de partager avec eux, de les encourager, de leur envoyer un petit mot, de leur téléphoner. Et si nous sommes du côté de ceux qui reçoivent, parce que nous n'avons pas ce qu'il faut, bien, il faut être reconnaissant. C'est Dieu qui donne toutes choses. Et quoi que ce soit que nous recevions, apprécions-le. Et ceux qui ne peuvent pas aller à la fête, priez pour ceux qui sont à la fête, pour leur protection, pour l'inspiration de ce qui va se dire, de ce qui va s'entendre. Qu'on soit riche ou pauvre, on doit prier les uns pour les autres et on doit partager. Il nous faut avoir la bonne attitude des uns envers les autres. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Le verset 19, quel est le résultat de ça? Si on le fait, s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Que ce soit dans la pauvreté, même si nous sommes dans la pauvreté, on doit observer la fête avec amour, dans un esprit de partage avec les autres. On peut prier pour les autres, les aider, les encourager aussi. Regardez maintenant dans Matthieu, le chapitre 6. Voyez ici comment Dieu veut que nous voyons la vie, que nous voyons les bénédictions qu'il nous donne, ou comment réagir dans nos temps de difficulté. Qu'est-ce qu'il dit, verset 31, Matthieu 6? « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ceux qui ne sont pas appelés par Dieu pour le moment recherchent ces choses-là, parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Votre Père céleste, vous qui êtes appelés, il sait que vous en avez besoin. Et Dieu connaît vos besoins. Il dit au verset 33, « Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et regardez, c'est une promesse, et toutes ces bénédictions vous seront données par-dessus. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cherchez le royaume de Dieu. Observez les fêtes de Dieu selon que Dieu nous commande. Avec joie et dans toutes circonstances, Dieu va pourvoir à vos besoins, va s'occuper de vous. Aujourd'hui, certains qui ne peuvent pas assister à la fête par maladie ou par manque de finances ou autre raison peuvent recevoir des vidéos et avoir la nourriture à la maison. Dieu nous bénit de façon extraordinaire. Et ceux qui savent que ces gens-là ne peuvent pas venir doivent leur envoyer un petit mot et prier pour eux. C'est formidable de pouvoir observer la fête, même si on n'a pas tout ce qu'on désirerait avoir. L'important, c'est de célébrer la fête de Dieu. Il y aura des temps de crise nationale qui vont se produire. Allons au livre de Lamentations. Il nous faut se préparer mentalement à ces choses-là, de sorte qu'on réagisse de la bonne façon. Le livre de Lamentations est entre le livre de Jérémie et le livre d'Ézéchiel. Et il y a des circonstances mentionnées ici au chapitre 1, verset 3. Ces choses-là sont arrivées dans le passé et peuvent se produire encore. Verset 3, Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude, en esclavage. Il habite au milieu des nations. Ils étaient captifs à ce moment-là et ça va se reproduire. Et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes de Dieu. Ils étaient en captivité à ce moment-là. Ils n'avaient plus accès au temple. On le voit, c'est décrit dans le livre ici. Toutes ces portes sont désolées. Ces sacrificateurs gémissent. Ces vierges sont affligées et elles sont remplies d'amertume. Quelle crise nationale affreuse! Quand vous lisez l'histoire, ces choses-là se sont produites dans le temps d'Israël. Pourtant, il y a eu des temps où la fête a été célébrée de façon fantastique à Jérusalem. Et il y avait beaucoup d'éclat au temple à ce moment-là. Les gens qui allaient célébrer la fête fraternisaient, se réjouissaient. Et il y avait une foule à Jérusalem. C'était des choses joyeuses. Ils ont goûté ces fêtes décrétées par Dieu. Mais voici, ici, il est décrit un temps où ce n'était plus disponible parce qu'ils avaient été amenés en captivité. Les portes de Sion avaient été détruites. Les sacrificateurs gémissent, ces vierges étaient affligées. Ces oppresseurs triomphent, ils avaient triomphé, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié. À cause de quoi? À cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ça s'est produit dans le passé, ça va se produire encore. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture. Alors, ça s'est passé, un temps de captivité nationale, et ça va se produire encore. Ça s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs, avant ça, allaient à leur synagogue le jour du sabbat et pour les jours saints. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup n'avaient plus accès à leur synagogue ou à leur rabbin. La splendeur avait disparu, pour ainsi dire. Mais certains ont continué à observer les fêtes de Dieu. J'ai certains livres chez moi qui montrent que certains Juifs ont continué à observer les fêtes de Dieu dans ces circonstances-là. Au psaume 42, allez au psaume 42, on voit une situation semblable. Ici, Dieu a inspiré ce psaume particulier, décrivant de telles circonstances où des gens étaient empêchés d'observer les fêtes et ils en souffraient. Le commentaire biblique expositeur dit ceci, le psalmiste qui a écrit ce psaume était isolé de Jérusalem. Il était sans doute un réfugié, il était sans doute en exil et il exprime sa douleur concernant le fait de ne pas pouvoir observer les fêtes comme avant. Psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » On voit que c'était une période où cet individu-là était séparé, était en exil, et il disait, « Quand est-ce que je vais pouvoir retourner et observer les fêtes de mon Dieu? » Il était séparé dans une sorte d'affliction terrible et il était dévasté de ne pas pouvoir célébrer les fêtes de Dieu comme auparavant. Il était un peu déprimé. Verset 12, il dit à Dieu, « Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Voyez-vous, il tournait ses yeux vers Dieu en espérant que Dieu allait changer les choses pour qu'il puisse l'adorer encore et aller au lieu de fête désigné par Dieu. Dans psaume 43, le psalmiste continue ses commentaires. Psaume 43 et le verset 3, il continue sur la même pensée. Il dit à Dieu, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » C'est formidable. Voyez-vous? Il dit, c'est mon Dieu, c'est lui que je veux servir. Et parfois, les gens sont empêchés de pouvoir célébrer les fêtes comme auparavant, soit au sabbat, soit aux autres fêtes, mais les gens, dans certaines circonstances, se rappellent les bons jours d'avant où ils pouvaient célébrer facilement les fêtes de Dieu et ils supplient Dieu de pouvoir le faire encore. Ils se rappellent le temps de prospérité et de sécurité. Mais ils tiennent bon et c'est ce qu'il faut faire. Et ils observent quand même la fête au mieux qu'ils peuvent en attendant que Dieu leur redonne la possibilité de le faire comme auparavant. On sait, comme le dit Romains 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans les temps de calamité nationale. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans les temps de grandes difficultés. Il faut être proche de Dieu, le supplier. Et Dieu répond. D'une façon semblable, il peut y avoir des périodes où ce n'est pas une crise nationale qui arrive, mais il peut y avoir des temps où nous avons des problèmes personnels douloureux. Et cette sorte de circonstances peuvent se produire soit dans les temps faciles ou dans des temps difficiles. Ça peut arriver à tout le monde, et ça arrive effectivement aux gens. Mais même dans cette circonstance-là, Dieu nous dit d'observer ces fêtes. Allons à 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est une expérience touchante qui est décrite ici. Ça fait partie de l'histoire que Dieu a voulu rapporter ici dans les livres. 1 Samuel 1, et le verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu. Il parle de sa nationalité. Verset 2, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Peninna. Peninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. On ne fait pas la promotion, bien sûr, de la bigamie. C'était les circonstances de l'époque, à ce moment-là. Une de ces femmes avait des enfants, ce qui est une grande bénédiction, et l'autre, Anne, n'avait point d'enfants, ne pouvait pas en avoir. Chaque année, verset 3, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Peninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça aurait jamais dû se produire, mais l'autre épouse de cet homme-là provoquait Anne, la rendait misérable, rendait sa vie malheureuse. Ce n'est pas mentionné ce qui se passait en détail ici, mais elle pouvait peut-être lui dire, « Regarde comment Dieu m'a béni, comment Dieu ne te bénit pas. Moi, j'ai eu des enfants, toi, tu n'en as pas eu. Peut-être que Dieu me prouve par là que j'aime mieux mon mari, que toi, tu l'aimes, et ainsi de suite. » Il y a des choses dures qui se passaient entre les deux femmes, et Anne était blessée. Elle était misérable dans la situation. Alors, verset 6, « Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Peninna la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. » C'était la fête et elle ne se réjouissait pas. Elle était malheureuse. Elle avait ce fardeau sur ses épaules. Verset 8, Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Elkana voulait le bien de sa femme, bien sûr. Et il la traitait très bien, avec beaucoup d'égard, pour l'encourager. Mais, comme la plupart des femmes le diraient, c'est que Elkana ne comprenait pas la douleur de sa femme. Même s'il l'aimait, il ne comprenait pas vraiment les émotions et la profondeur des douleurs qui assaillaient son épouse. Il faisait de son mieux, mais il ne la comprenait pas vraiment. Il faisait de son mieux pour la réconforter. mais il n'y arrivait pas. Verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Ce n'est pas une chose sage de faire des vœux à Dieu pour obtenir une bénédiction particulière comme elle a fait ici. Mais son cœur était juste, elle aimait Dieu, elle était affligée et elle était disposée à faire tous les sacrifices imaginables pour que Dieu la bénisse, entende sa prière et lui donne un enfant. Verset 12, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. » Et on voit ici que Élie a tiré une conclusion trop rapide. Il a mal jugé ce qui se passait. Verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Voyez-vous? Plutôt que de lui demander d'aller vers elle et de voir ce qui se passait, il lui dit, il l'a condamné dans le fond. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Il ne lui a pas dit, est-ce que tu as un problème? Est-ce que je peux t'aider? Non. Il lui a dit, « Tu es ivre, fais passer ton vin. » Verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie a eu au moins la présence d'esprit, la bonne attitude d'admettre qu'il avait fait erreur. Verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous pourrez lire le reste de l'histoire. Vous voyez comment Dieu a béni cette femme. Il lui a donné un fils qui est devenu justement Samuel. Ce fut un serviteur puissant de Dieu. Je donne cet exemple particulier parce que parfois on va à la fête avec des fardeaux émotionnels dans notre cœur. Il y a des femmes qui aimeraient avoir un enfant. Il y a des hommes qui aimeraient avoir un enfant et qui ne peuvent pas. Qui ont été mariés peut-être depuis longtemps, mais pour quelque raison que ce soit, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils vont à la fête et ils voient les autres familles, ils voient les autres couples avec des enfants, ils les voient jouer, s'amuser ensemble, apprendre les voies de Dieu ensemble, et ils souhaiteraient être dans de telles conditions, et ils souhaiteraient que Dieu rende possible le fait d'avoir un enfant pour eux. Il peut y avoir d'autres fardeaux, peut-être. Peut-être que certains vont à la fête avec un problème de santé majeur. Ils souffrent, ils ont une douleur, beaucoup de douleur physique peut-être. Et ils disent à Dieu, peut-être qu'à cette fête, Dieu, tu vas me guérir. Peut-être que c'est la fête où je vais être guéri et que mes douleurs vont prendre fin. Peut-être que c'est maintenant le temps où je vais voir. Peut-être que c'est la fête où les sourds vont entendre. Peut-être que c'est cette année la fête où celui qui est paralysé va pouvoir marcher. Peut-être que c'est à cette fête-ci que Dieu va me guérir de mon diabète ou de mes problèmes cardiaques. Voyez-vous, c'est des choses qu'on peut faire à la fête parce que parfois on vient à la fête dans ces conditions-là et qu'on n'est pas en parfaite condition. Quels que soient nos problèmes physiques ou émotifs, on peut en parler à Dieu, mais quelles que soient nos conditions, même si on doit rester à la maison, on doit célébrer la fête avec joie, même lorsqu'on a des épreuves. C'est un exemple ici. Peut-être qu'on peut à ce moment-là faire des prières additionnelles et étudier de façon additionnel. Ne pas faire un vœu comme Anne a fait, mais vraiment supplier Dieu en disant, Dieu, c'est ta fête annuelle. C'est la fête qui représente le monde à venir où tu vas guérir les nations. Alors, Père, guéris-moi. Aide-moi dans ma détresse psychologique peut-être que j'ai ou dans mes problèmes émotifs que je traîne depuis quelques années. Dans le monde à venir, tu vas répandre les bénédictions sur les nations. Alors, s'il vous plaît, Dieu, aide-moi à avoir un petit peu de ces bénédictions maintenant. Parce que je t'appartiens et je veux te servir. C'est formidable tout ce qui peut se passer à la fête des tabernacles. On peut prier Dieu davantage, le supplier. Qui sait si Dieu n'interviendra pas et ne tournera pas la situation en votre faveur? Vous savez, lorsque le Christ a rencontré les moments les plus pénibles de sa vie, il a gardé sa tête tournée vers les choses positives, sa pensée vers des choses positives. Il s'est tourné vers Dieu. Allez dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, nous allons commencer à lire au verset 14. Regardez comment le Christ a abordé ces moments les plus douloureux de son existence, là où il allait être martyrisé et mis à mort. C'était le moment de sa dernière Pâque dans la chair ici. Luc 22, verset 14. C'était juste quelques heures avant sa crucifixion. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui et leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, Jésus-Christ comprenait qu'il avait besoin d'être encouragé. Et la présence de ses disciples l'encourageait. D'abord, bien sûr, la présence de Dieu et ses rapports avec lui. Verset 28, regardez ce qu'il a dit. « Vous, mes disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Alors, c'est important. Lorsqu'on sait que quelqu'un a une épreuve ou passe par des temps difficiles, soyez un encouragement pour cette personne-là. Aidez cette personne-là dans sa foi. Encouragez-les en lui disant que Dieu va éventuellement la guérir. Le Christ a dit, « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Verset 29, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Voyez-vous ce à quoi le Christ pensait? Il était conscient de ce qui s'en venait dans quelques heures pour lui, l'agonie horrible qu'il allait endurer, mais il a gardé ses pensées tournées vers le but pour lequel il était là et sur ce sur quoi ça allait déboucher, le royaume établi sur la face de la terre. Et il a gardé les yeux tournés vers la vie éternelle, vers le royaume à venir, vers le rôle qu'il avait à jouer pour rendre ces choses-là possibles. Allez à Matthieu chapitre 26 maintenant, Matthieu chapitre 26, et nous allons lire à partir du verset 36, le Christ a prié de façon très spéciale, même plus que Anne. Matthieu 26 et le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il savait ce qui s'en venait. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, que ta volonté, Père, soit faite. Le Christ n'a pas prié comme ça seulement une fois, mais à différentes reprises. Et on sait qu'il était tellement angoissé qu'il y avait du sang qui sortait des pores de sa peau. Mais à travers tout ça, il a cherché la volonté de Dieu. Et Dieu l'a fortifié et l'a aidé à passer à travers cette épreuve qui a été une telle bénédiction pour toute l'humanité. Vous savez, la fête des tabernacles ne pourrait pas exister sans cette première étape qui devait se réaliser, la mort du Christ, la mort de l'agneau de Dieu, son sacrifice, la Pâque, et lui a passé par cette épreuve terrible. Et Dieu lui a répondu, lui a donné la force. Matthieu 11 et le verset 28. Matthieu 11 et le verset 28, voyez ce qui est écrit ici. Ce que le Christ dit et vous dit à vous et à moi, quelles que soient nos circonstances, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Remettez ces choses-là entre mes mains, je vous donnerai du repos. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous savez, il faut apprendre à laisser nos problèmes dans les mains de Dieu, faire la part qu'on a à jouer, mais remettre toutes choses entre ses mains. Dieu connaît nos besoins, connaît nos circonstances. Le Christ nous dit, écoutez, vous êtes chargés parfois, fatigués, avec les soucis, avec toutes sortes de difficultés, mais venez à moi en prière, en supplication. Remettez ces choses-là sur mes épaules et laissez-moi porter votre fardeau. Et le Christ a promis qu'il prendrait charge de nous. C'est des promesses infaillibles. Il y a des moments où parfois on a observé la fête dans des moments de confusion spirituelle. Et parfois même d'observer la fête, ça a été un défi. Parfois, certaines personnes vont s'en prendre à nous et vont nous dire, vous observez la fête à un mauvais moment donné, ce n'est pas à ce temps-là qu'on doit l'observer, c'est à un autre moment. Non, on a un calendrier exact qu'on peut prouver. Certaines personnes vont nous accuser, vont dire vous êtes trop sévères ou vous êtes trop libéraux. Suivez nos directives. Non. Comment est-ce qu'on doit observer la fête? Quand observer la fête? Dieu nous le dit exactement dans sa parole. Allons à 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 14. Ce genre de problème-là est arrivé au cours de l'histoire à l'Église. L'Église a été souvent bombardée par des fausses doctrines, par des accusateurs, par des gens qui voulaient détourner. Vous savez, Internet est une belle invention, et ça peut transmettre des informations rapidement pour le bien, mais aussi ça peut le faire pour le mal. Ça peut disséminer des erreurs et des faussetés. 1 Timothée, chapitre 3. Parfois, les gens vont fouiller là-dessus et deviennent confus. 1 Timothée, chapitre 3, c'est vers la Bible qu'on doit se tourner. Verset 14, Paul écrit ceci. À Timothée, le jeune évangéliste, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous, l'Église doit publier la vérité et l'enseigner dans ses murs. Paul dit à Timothée, si tu veux savoir comment te conduire, comment observer les fêtes, comment vivre selon Dieu, à ce moment-là, tourne-toi vers l'Église de Dieu, vers les serviteurs de Dieu. Et c'est un apôtre qui parle, Paul, qui représente le fondement des enseignements de Dieu, lui qui était l'imitateur de Christ. Et il dit à Timothée, appuie-toi là-dessus. Un autre passage, un peu plus loin, il a dit, rappelle-toi de qui tu as appris ces choses-là. Vous savez, à travers les années, nous sommes venus à l'Église et nous avons appris ce que la Bible enseigne vraiment par les serviteurs de Dieu. Nous avons développé la stabilité et nous avons appris à servir Dieu. Mais il nous faut toujours nous rappeler de qui nous avons appris ces choses-là, de l'Église, et ne pas aller vers d'autres choses autour qui peuvent amener la confusion. Allez à Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Il nous faut prouver les choses une fois pour toutes et ensuite rester sur les fondements. Et lorsqu'il y a des idées de confusion qui arrivent concernant les fêtes de Dieu, il faut se solidifier. Mais où aller? Avec qui se réunir? Vers qui doit-on aller? Qu'est-ce que signifie la fête? Comment l'observer? Dieu nous le montre. Colossiens 2 et le verset 6. Colossiens 2, verset 6. Paul écrit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. étant enraciné et fondé en lui. Comment est-ce qu'on a reçu la vérité? Comment est-ce que vous avez appris la vérité? De qui est-ce que vous l'avez appris? Vous avez appris concernant le sabbat? Vous avez appris concernant les sabbats annuels, les fêtes? Où avez-vous appris ces vérités? De qui les avez-vous appris? Nous les avons appris de la bouche des ministres fidèles à Dieu qui prêchaient exactement ce qui est dans la Bible, et c'est ce que nous devons faire, ce que l'Église de Dieu continue à faire maintenant. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Certains d'entre nous ont été dans l'Église depuis des dizaines d'années. Rappelez-vous votre appel. On nous a enseigné à vérifier toutes choses dans la Bible. À partir de la Genèse à aller jusqu'à l'Apocalypse, nous avons appris ce que signifie le sabbat et les fêtes. Nous avons été enseignés à travers les années par des serviteurs fidèles de Dieu. Alors, nous avons été fondés dans la foi comme nous avons été enseignés et nous en sommes très reconnaissants. Dieu nous a donné des choses merveilleuses. Alors, verset 8, Paul dit, et ça s'applique à nous aussi, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Faites attention que personne ne vous prive de votre salut par la philosophie et par une vaine tromperie. D'où est-ce que ça vient, la philosophie et les vaines tromperies? Alors que la vérité vient de la Bible. Le fondement, notre fondement vient de la Bible et c'est ce que nous enseignons. C'est la parole de Dieu, écrite, qui est notre guide. Nous ne prêchons pas dans l'Église de Dieu des philosophies humaines et des tromperies. Nous ne nous tournons pas vers des traditions humaines. Nous ne nous tournons pas vers ce que les hommes enseignent ou vers les traditions qui ont été développées par les hommes. Non, nous prêchons la parole de Dieu. Dieu nous dit de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ces paroles-là sont écrites dans la Bible. S'appuyant sur les traditions d'hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ, car en lui, dans le Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est vers le Christ que nous nous tournons. Et regardez, le Christ, et c'est marqué dans la Bible, le Christ a désigné et désigne des serviteurs pour enseigner sa parole, des évangélistes, des ministres. Et nous devons être dans l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est vers les Écritures que nous devons nous tourner pour prouver les choses, et vers les vrais ministres de Dieu, vers son Église, qui enseigne l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Église est inspirée par Dieu, et elle l'a été pour nous enseigner ces fêtes. Et nous continuons dans ces enseignements et dans ces compréhensions-là. Après, il dit que nos fautes ont été pardonnées, ayant été, verset 12, ensevelies avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et finalement, au verset 16, c'est très important ici, Paul dit que personne donc ne vous juge ou ne vous critique ou ne vous condamne ou se moque de vous ou vous mette au défi, que personne donc ne fasse ça concernant le manger ou le boire, ou au sujet d'une fête, ou des sabbats. Parfois, les gens vous mettent au défi ou critiquent ce que vous mangez et disent, ah, vous pouvez manger n'importe quoi, vous pouvez manger du porc, des fruits de mer, et ainsi de suite. Mais écoutez, certains même vont dire, allez-y au maximum, amusez-vous. Profitez des choses de la vie, buvez et mangez à l'excès. On ne doit pas faire ça, la Bible nous montre. Bien sûr, on peut boire. Certaines personnes vont dire, vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool. Ou d'autres incitent les autres à boire trop. Alors que la Bible nous dit qu'on peut prendre de l'alcool, mais avec modération. Certains essaient d'émettre toutes sortes d'idées fausses concernant les fêtes ou la façon de les observer, mais Paul dit ici, ne vous laissez pas séduire par ces fausses choses-là. Il dit, écoutez, les sabbats de Dieu sont l'ombre des choses à venir, et ces fêtes aussi. Et c'est très encourageant. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, d'une fête ou des sabbats qui sont l'ombre des choses à venir, sauf le corps du Christ, comme c'est écrit dans l'original. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est ne laissez personne vous critiquer ou vous juger ou vous condamner sur votre observance des fêtes de Dieu et la façon de vivre de Dieu, mais laissez l'Église juger de ces choses-là et vous les enseigner. Quel est le corps de Christ? Colossiens 1, 18, la page précédente. Il est le Christ, la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que Paul dit dans Colossiens 2, verset 16, que le corps de Christ vous enseigne quoi faire, vous dise quoi faire, parce que le Christ a placé ses ministres dans son Église pour enseigner les lois de Dieu et comment en vivent. Alors, dans des temps de confusion spirituelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se fonder sur l'Église qui nous a enseigné les fondements de la vérité et sur la Bible. Et verset 18, il dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. De telles philosophies existent, de telles façons de penser existent. Certains vont vous dire, dépensez pas de l'argent pour aller à la fête, prenez cet argent et donnez-le aux pauvres, donnez-le aux pauvres. Et de cette façon, vous allez être beaucoup plus religieux, vous allez être davantage spirituel. Encore une fois, ce n'est pas ce que Dieu dit, Dieu nous commande de célébrer sa fête. Et Dieu dit par ces fêtes-là, surtout la fête des tabernacles, Dieu veut nous donner un avant-goût du monde à venir. Il y a des gens qui nous amènent des idées nouvelles. Certains disent « faites la fête de façon excessive » ou d'autres disent « non, il faut être absolument frugal, il faut presque rien faire ». Non, regardez, qu'est-ce que ça dit ces choses-là? Verset 19, « Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec le Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? » Voyez-vous, les choses anciennes, nous les laissons en arrière, notre ancienne façon de faire, comme le monde faisait les choses. Nous les faisons maintenant comme Dieu veut. Dieu inspire son Église de nous montrer le chemin. Alors, il dit, si vous êtes mort avec le Christ au principe élémentaire du monde, c'est-à-dire aux façons de faire du monde, verset 21, les gens peuvent dire parfois, de façon erronée, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ce sont des idées humaines, préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. Par exemple, certains vont dire, la sexualité, c'est quelque chose de mauvais, ou il ne faut pas manger de telle ou telle chose. Ce sont des règles humaines qui ont été ajoutées, et il dit, et qui ne sont fondées que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes. Toutes sortes d'idées bizarres. Qu'est-ce qu'on doit faire à la fête? Qu'est-ce qu'on devrait manger ou boire? Ou comment on devrait se comporter? C'est Dieu qui nous dit quoi faire. Dieu nous dit, ne suivez pas les traditions d'hommes et les doctrines d'hommes. Absolument pas. Verset 23, « Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Certains s'imposent comme les ascètes des régimes extrêmes pour vivre dans une frugalité que Dieu ne demande pas. Et c'est une fausse humilité, comme il dit ici, un mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est pour ça que Paul dit, après ça, au verset 1 du chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, donc suivez ce que le Christ nous montre. » Chaque année, Chaque année, nous observons les fêtes de Dieu. Et chaque année, nous allons rencontrer des situations variées, des situations différentes. Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit qu'il y a des circonstances différentes qui se produisent. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, par exemple, pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Dans l'Église, il y a des temps de prospérité, il y a des temps de sécurité et de facilité. Mais il y a aussi des temps de contraintes financières. Il y a des temps de grandes épreuves personnelles. Il y a des temps de calamité nationale. Il y a aussi des temps de bataille spirituelle. Nous le savons. Dans les temps heureux et dans les temps difficiles, Dieu veut que nous gardions la bonne perspective. Allons au livre d'Ecclésiaste, s'il vous plaît. Ecclésiaste, le chapitre 12. Dieu veut que nous célébrions sa fête avec joie, avec enthousiasme, pour que nous comprenions le but de notre vie et de notre appel. En tout temps, Dieu veut que nous lui obéissions, quelles que soient les circonstances de notre vie. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 15. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Voici le but de la vie. Nous devons travailler à devenir comme Dieu en vivant selon ses principes d'amour. Que nous aimions Dieu de tout notre cœur et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes et que nous observions toutes ses lois et ses fêtes qui nous montrent son plan, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions. Allez à Psaume, s'il vous plaît, un dernier verset, Psaume 19, et nous allons commencer à lire au verset 8. Peut-être vous entendez mon sermon à la maison ou dans un petit groupe où il n'y a pas de ministre, mais qui fait partie de l'Église de Dieu et qui a reçu ses sermons. Peut-être avez-vous un problème de santé, peut-être passez-vous des épreuves difficiles, mais gardez la bonne perspective. Vous observez la fête de Dieu, peut-être pas de la façon dont vous aimeriez, mais en le faisant, vous êtes en train d'obéir à Dieu et vous apprenez à craindre Dieu. Vous gardez votre esprit tourné vers la vie éternelle, vers le monde à venir. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Voyez-vous, une restauration de l'âme. Vous savez, les jours saints de Dieu font partie des lois de Dieu. Cette fête des tabernacles fait partie des lois de Dieu. Et dit, le fait d'observer ces lois, ça va vous changer. Ça va vous changer dans votre façon de penser, dans votre façon de vous comporter. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Les ordonnances, verset 9, de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas être avec les autres membres de l'Église à un site de fête particulier, vous entendez ces sermons maintenant, aujourd'hui, et vous lisez ces versets, ça vous réjouit. Ça vous fait réaliser que vous êtes dans la bonne direction. Continuez. Verset 10, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes. C'est formidable. Quel encouragement. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes. Lui sait ce qui est bien et lui s'occupe de nous. Verset 11, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Frères et sœurs, où que nous soyons pour observer la fête cette année, quelles que soient les circonstances de notre vie présente, que nous soyons dans un site de fête organisé ou que nous soyons à la maison, que nous soyons isolés, célébrez Dieu. Pensez aux autres, priez pour les autres, priez pour le royaume de Dieu. Si vous observez la fête selon ce que Dieu vous montre, vous allez être récompensé de toute façon imaginable. Vous allez être restauré, éclairé. Ça va vous réjouir. Vous allez être béni par ce que vous faites en obéissant à Dieu. Et ces bénédictions vont venir, que ce soit dans des temps faciles ou des temps difficiles, des temps de grand stress ou des temps de paix ou de prospérité. Frères et sœurs, obéissez à Dieu. Ce faisant, Vous mettez votre vie dans les voies de Dieu, suppliez-le, observez ces fêtes de la meilleure façon possible. Et Dieu va vous récompenser avec des bénédictions merveilleuses, des bénédictions de toutes sortes, des bénédictions spirituelles aussi, maintenant et à jamais dans le royaume de Dieu.